les chemins de la connaissance. Depuis longtemps, il y a conflit ou querelle, ou désaccord, ou différend. Il y a ceux qui pensent que la ponctuation relève de l'écrit, de la syntaxe, et ceux qui considèrent qu'elle relève de l'oral, de l'intonation. Michel Arrivé, vous êtes linguiste, enseignant à Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages, dont Réformer l'orthographe et tout récemment Langue et psychanalyse aux Presses universitaires de France. Marie-Annick Morel, vous êtes vous aussi linguiste, responsable de l'équipe de recherche sur le français contemporain à Paris 3. Comment poser cette délicate question, écrit ou oral, syntaxe ou prosodie, Michel Arrivé?
Pour les signes de ponctuation, on a un système complètement spécifique qui, ça va de soi, correspond à des phénomènes de l'ordre de l'oral, mais y correspondent de façon extrêmement détournée. Je vais prendre un exemple. Voilà, vous avez le point d'interrogation. Ce point d'interrogation, vous le trouvez à l'oral dans une phrase à intonation ascendante. Par exemple, si je dis « tu viens ?», chacun comprend que c'est une interrogation. Bon, vous allez, dans l'écriture, marquer ça par un point d'interrogation. Maintenant, si je dis « qu'est-ce que tu fais ?», c'est aussi une interrogation. Mais l'intonation a un schéma tout à fait différent. Toutefois, c'est le même signe, point d'interrogation, que j'utilise. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les manifestations des modalités, comme on dit pédantesquement, de la phrase, sont fondamentalement différentes entre l'oral et l'écrit. On a deux systèmes complémentaires, si on veut, mais complètement différents dans leur structure. En gros, l'oral se manifeste par des choses qui sont contemporaine de l'émission du discours.
Maintenant, alors tout de même, votre définition de la ponctuation?
C'est très compliqué. Très très compliqué parce que justement, on va tomber tout de suite dans le problème que vous avez posé tout à l'heure, intonation, prosodie d'un côté, syntaxe de l'autre. Or, la ponctuation a fonction de marquer tout ça. Hein, tout ça de façon syncrétique. À la fois. Donc, il n'est guère possible de donner d'emblée, comme ça, ramasser une définition de la ponctuation. Moi, si vous voulez, je reviendrai à mon histoire de clavier d'ordinateur et je dirais que, une fois éliminé tout ce qui est alphabétique, une fois éliminé tout ce qui est symbolique au sens strict, reste un certain nombre d'éléments qui sont les éléments de ponctuation, dans lesquels vous comprenez que j'inclus, par exemple, des objets tels que l'astérisque, les crochets, les parenthèses, les guillemets, et même en allant plus loin, réfléchissons un tout petit peu, les guillemets sont très souvent, dans l'usage contemporain, suppléés par les caractères italiques. Hein, on sait très bien que mettre un mot en italique ou le mettre entre guillemets, ça a très souvent la même fonction. Bon, alors, si je considère que les guillemets font partie de la ponctuation, pourquoi ne pas considérer que l'opposition des caractères italiques en fait partie aussi? Et vous voyez que dans ce sens-là, on va se trouver très très vite engagé dans une vue extrêmement globale de la ponctuation, parce qu'on va ajouter naturellement les blancs entre les mots, les blancs entre les paragraphes, les majuscules, la mise en page. Vous voyez par conséquent que donner une définition ramassée de la ponctuation, bon, c'est possible, j'ai sous les yeux...
Oui, est-ce que vous acceptez, voilà, la définition un peu courante, un système de signes non alphabétiques, d'idéogrammes qui fonctionnent comme des signes linguistiques sans être des phonèmes, donc des signes visibles à l'écrit, mais plus ou moins silencieux à l'oral?
Vous avez remarqué que la définition est tout aussi négative que celle que j'ai donnée, puisque le principal de cette définition, c'est qu'il n'y a pas de correspondance pour les signes de ponctuation avec les phonèmes, correspondance qu'on remarque pour les lettres. Bon, si vous voulez, en très gros, oui, ça va, comme définition. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être de Nina Katach, ça, il me semble bien.
Je pense que c'est Nina Katach.
Reconnu.
Alors qu'au 18e, c'était une autre définition. La ponctuation est l'art d'indiquer par des signes la proportion de pauses que l'on doit faire en parlant. Marie-Annick Morel.
Alors, je peux enchaîner justement sur cette question de la rhétorique. Il me semble qu'au XVIIIe siècle, l'objectif d'une définition comme celle-là était de permettre la lecture des textes écrits. Et donc, les rhétoriciens considéraient que selon qu'on avait une virgule, un point-virgule ou un point, on devait marquer un temps d'arrêt différent.
Tout à fait. C'est-à-dire que la ponctuation à l'époque avait beaucoup plus de relations avec la manifestation orale qu'elle en a aujourd'hui.
Aujourd'hui, on lit à voix basse.
Oui, et alors donc au XVIIIe siècle, on envisageait comme unité d'analyse de la rhétorique, c'était la période, et l'unité supérieure était le paragraphe. Or, je verrai, j'ai cherché depuis longtemps, ça fait 4 ans que cette recherche est instaurée à Paris 3 au laboratoire de phonétique avec d'autres collègues, j'ai cherché des correspondances entre l'oral et l'écrit. Je pense que tout d'abord, la structure de l'énoncé oral n'est absolument pas la même que celle de l'écrit. L'énoncé oral se caractérise par le fait qu'il a un déroulement dans le temps. Il n'a donc pas de visualisation spatiale comme peut avoir le texte écrit. On ne peut pas revenir en arrière, ce qui a été dit est dit. Et donc, il y a forcément réception, production et réception dans la successivité temporelle. Donc ça, c'est une caractéristique qui explique que l'oral se caractérise par une décondensation des énoncés et des constituants. Et quand on voit à plat une transcription d'oral, on a l'impression de juxtaposition de constituants. Alors je vous en donne un exemple, mais je vais y mettre l'intonation. Quand on a « tu vois » par exemple, Grégory, « moi pour moi », c'est vraiment un ami super, parce que tu es avec lui, il a vraiment le cœur ouvert envers tout le monde. Donc on a toute une série de juxtapositions, et c'est réellement...
Où sont les virgules, les points-virgules?
Voilà, alors les virgules et les points-virgules, on pourrait les chercher, enfin les virgules en tout cas, dans les montées intonatives, qui sont donc des signes de continuatif en français. Mais justement, on s'aperçoit que même en finale d'énoncé, de ce qu'on peut considérer comme un énoncé complet, on peut très bien trouver un continuatif. Je veux dire qu'on n'a pas fini. Et c'est pour ça que je dirais que l'unité de l'oral, c'est plutôt le petit paragraphe. Bon. Alors, la seule correspondance univoque que je verrai avec l'écrit, c'est la grande descente finale qu'on a lorsqu'on a fini de parler.
Tout le monde est d'accord sur le point, quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est le point final. Parce que les points qu'on a à l'écrit ne seront pas forcément donnés comme par des intonations descendantes. Si on considère que thématiquement, l'énoncé continue. Donc ça, c'est une première différence qui est fondamentale et qui va de pair donc avec la structuration de l'oral. Alors, la deuxième remarque importante, c'est que la marque, autant la marque de l'écrit, même si c'est un idéogramme, est isolable, bon, elle suit le linguistique, autant à l'oral, premièrement, il y a 3 facteurs qu'on a beaucoup de mal à dissocier, qui sont la hauteur mélodique, la variation mélodique, la durée et l'intensité. Et alors, je sais bien que nous avons privilégié la hauteur mélodique, les variations mélodiques, pour une raison très simple, c'est que le français marque la structuration par ces variations-là. Mais en étudiant...
Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres langues, hein, voilà, c'est une spécificité du français.
Voilà, ça ne se marque pas comme ça en anglais, par exemple, mais ça pourrait être une particularité d'autres langues romanes. Et alors, la durée en particulier joue un rôle très important dans certains types de phrases comme l'exclamation, dans certaines attitudes énonciatives. Et alors, c'est très difficile de les distinguer à certains moments. Toutefois, on peut différencier, par exemple, la combinaison de la hauteur et de la durée qui va produire l'exclamation. Alors, on va dire « c'est bon ». Et en revanche, l'interrogation va se différencier uniquement par la hauteur et pas de durée. On va dire « c'est bon ». Bon, donc là, on a des combinaisons qu'on est en train d'étudier qui correspondent donc à des signes de ponctuation
différents. Des correspondances, donc, entre les signes écrits et les tonalités.
C'est cela.
Oui, mais correspondances jamais tout à fait conformes. N'est-ce pas? Je crois que Marie-Annick Morel a très justement insisté sur cette évidence, c'est que l'oral, ça se déroule dans le temps, et l'écrit, ça se déroule dans l'espace. Autrement dit, forcément, ce qui est écrit est fondamentalement manifesté par des segments isolables. Vous voyez, le point d'interrogation, ça prend dans la ligne autant de place qu'une lettre, un peu plus même, hein, parce que les typographes vous disent très justement qu'il faut mettre une espace, on dit une espace en typographie, un peu plus longue après le point d'interrogation. Bon, tandis que l'intonation interrogative, très bien décrite par Marie-Annick, eh bien, elle se passe en même temps que l'énoncé. Vous voyez, hein, par conséquent, il y a une différence de structure liée en quelque sorte à cette différence matérielle, manifestation temporelle, manifestation graphique fondamentale entre ponctuation et schéma intonatif. Alors bon, c'est pas toujours aussi clair que ça, ça va de soi, hein, parce que, certes, dans le cas de l'exclamation, là, il y a quand même un rapport extrêmement précis entre le schéma accentuel, prosodique, et la présence ou la non-présence du point d'exclamation. Mais il faut dire aussi que ce point d'exclamation a toutes sortes de valeurs possibles. Par exemple, il accompagne souvent un impératif, hein, et l'impératif, c'est pas du tout une exclamation.
Est-ce que je peux intervenir?
Oui, bien sûr.
Parce que, alors, donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir la propriété de l'intonation qui permet de marquer exactement l'élément sur lequel porte l'exclamation.
Tout à fait. Oui,
alors
oui.
Que le point d'exclamation est cantonné
à la fin.
Voilà. Alors j'ai des exemples du genre, ce qui fait le plus peur aux gens là-bas, c'est des cafards énormes volants. Mmh. Ou bien, regardez, d'une fraîcheur extraordinaire. Et on aurait tendance spontanément à faire porter l'exclamation sur extraordinaire. Non, elle porte sur fraîcheur.
Mais est-ce qu'on est encore dans la ponctuation, là, Michel Arrivé?
On est, si vous voulez, dans le système linguistique infiniment complexe qui, dans la manifestation orale du discours, fonctionne sur le même modèle que ce qui, dans la manifestation écrite, est marqué par la ponctuation.
Oui.
Voilà, n'est-ce pas? Il y a deux systèmes. L'un, certainement, il n'y a aucun doute, plus riche, plus nuancé, tout ce que vous voulez, moins traversé par des oppositions. Parce que, bon, à l'écrit, vous avez
un point... Mais qui nécessite la présence ici et maintenant, quand même.
Ah ben, ça va de soi, ça va de ça, effectivement, ça.
Donc,
c'est fondamental.
Donc il n'y a plus
limité. N'est-ce pas? C'est absolument fondamental. Mais si vous voulez, à l'écrit, vous avez un point ou un point d'interrogation. Bon, il n'y a pas la possibilité d'avoir quelque chose d'intermédiaire. Bon, or, à l'oral, vous avez la possibilité de faire varier le schéma intonatif d'une façon telle que, dans certains cas, vous saurez plus très nettement si c'est une affirmation un tout petit peu nuancée ou bien une interrogation vaguement formulée. Vous voyez?
Mais est-ce qu'on y gagne en clarté ou est-ce qu'on y perd en richesse?
Il va de soi que la manifestation écrite est, en quelque sorte, beaucoup plus fondée sur le principe d'opposition que la manifestation orale. Il va de soi qu'en disant ça, je ne fais pas un éloge particulier de l'oral. Hein, l'écrit aussi a ses spécificités. Mais ce qu'il faut voir, n'est-ce pas, c'est qu'on a deux systèmes qui ne sont pas identiques, qui sont fonctionnellement analogues, mais qui sont, dans leur structure, assez fondamentalement différents.
Est-ce que cela veut dire qu'il faut parler de ponctuation écrite et de ponctuation orale?
Écoutez, le terme ponctuation trouve son étymologie dans le mot
point.
Bon, le mot point, c'est une trace écrite laissée par de l'encre
donc
sur du
papier. Donc il faut laisser la ponctuation
donc,
à l'écrit.
À mon avis, on ne peut utiliser le terme de ponctuation pour l'oral que de façon fortement métaphorique. Vous avez des possibilités que vous avez à l'oral et que vous n'avez pas à l'écrit. Inversement, vous avez à l'écrit des possibilités que vous n'avez pas à l'oral. Je pense, par exemple, au point de suspension. Mais bon, les guillemets, par exemple, hein, les guillemets ont des possibilités à l'écrit que n'offre pas toujours de la même façon la manifestation orale. Je ne sais pas, moi, je vais raconter l'histoire de gens, de prisonniers politiques, qui sont emprisonnés et qui sont baptisés rebelles par les autorités du pays. Je vais dire, les rebelles, entre guillemets, sont emprisonnés dans des conditions très peu confortables. Vous voyez, bon, voilà ce qui se passe à l'écrit. Les guillemets signalent en quelque sorte que je prends le mot rebelle avec toutes les précautions d'usage. Alors bon, à l'oral, comment ça va se manifester? Ça va se manifester par, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Marie-Annick, par une petite pause juste après le déterminant. Hein, les rebelles.
Oui, il y aura
et
ça,
peut-être et... par une intonation
plate.
Spécifique portant
plate,
sur
justement,
rebelle.
Voilà.
Vous voyez, donc, vous voyez, on a la possibilité de réaliser à peu près le même effet, hein, mais par des procédés fondamentalement différents.
En quoi sont-ils fondamentalement différents?
Eh bien, ils sont fondamentalement différents en ceci que, à l'écrit, ils sont linéaires, hein, ce sont des signes disposés sur la matérialité de la ligne, tandis qu'à l'oral, ça va être des procédés plus ou moins concomitants avec l'émission même du discours. On est d'accord?
Oui, tout à fait, et je pense, de toute façon, la différence fondamental entre l'écrit et l'oral, c'est que l'écrit ne se passe jamais en situation d'interlocution directe ou d'émission et réception directe. Alors, ça explique à la réception, on a quelque chose quand même d'inerte. Tandis que à l'oral, on est constamment, les interlocuteurs sont constamment en train de s'ajuster l'un par rapport à l'autre, par rapport aux réactions qu'ils voient à l'autre ou par rapport à la pensée qu'ils prêtent à l'autre. Donc, ça explique une certaine structure dénoncée telle que celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Et ça explique aussi les modulations intonatives qui vont de pair avec les intentionnalités en direct de l'énonciateur.
Juste une toute petite dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, au bout du compte, que l'oral déborde un peu trop sur l'écrit, c'est-à-dire influence peut-être un peu trop l'écrit de plus en plus? Michel Arrivet.
Écoutez, je me demande, moi, si je ne verrais pas le danger plutôt de l'autre côté. Oui, parce que, si vous voulez, je ne vois guère de possibilités commodes pour le texte écrit de manifester l'intonation. C'est un gros problème pour les linguistes spécialistes de la chose. Il n'y a rien de plus difficile que de marquer par des schémas, par des notations symboliques, l'intonation. Au contraire, il n'y a rien de plus facile que de faire passer la ponctuation à l'oral. Hein? Vous allez dire point final. Bon, et point final, lorsque vous dites la ponctuation, c'est pas intéressant, je veux rien en savoir, point final. Ça a un sens tout à fait différent que ce que vous dites lorsque vous mettez simplement un point graphique dans la phrase. Vous voyez, hein, ce qui se passe, c'est ce qui est, me semble-t-il, pas du tout un danger, mais enfin une caractéristique de certains aspects de l'usage contemporain, c'est d'oraliser les signes de ponctuation.
C'est à cause de cette situation en direct et à chaud de l'oral, bon, c'est une banalité de le dire, mais où on est constamment en train de s'ajuster à l'autre, qu'on a toutes ces manifestations. À l'écrit, on a un texte beaucoup plus lisse,
tout à fait,
beaucoup plus ramassé, et du reste, il faudrait apprendre aux élèves à passer de l'oral, qui est décondensé par nature, c'est sa fonction, pour qu'on enregistre bien l'information, et l'écrit, qui par nature aussi est condensé.